Kenz n'est pas soluble dans Valras. Une pièce d'Isabelle Philippe. Avec Isabelle Philippe dans le rôle d'Isa et Garance Legroux dans le rôle de Garance. Direction artistique, Virginie Allot. Ingénieur du son et création sonore, Casper Kérol. Production, Théâtre des Bains-Douches, Le Havre. Enregistré en janvier 2024. Tableau 1. Voyage dans l'espace social. Un débarras où se trouve entre autres une vieille armoire qui servira à l'occasion de tableau noir. Deux femmes, dont l'une est visiblement plus âgée que l'autre. Elles sont vêtues et équipées pour faire un grand ménage.
L'heure de ma retraite a sonné. Je tourne la page, tire un trait. Je jette l'éponge et puis la craie. Je sais, de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair. Sauf que moi, je préfère l'octosyllabe. Quand même le droit de préférer ce que je veux, non ?
Si, si.
Bon, je reprends. Ce soir au lycée, c'est la fête pour mon départ à la retraite. On va manger des petits fours, boire du vin blanc à ma santé. J'ai préparé un beau discours et tout le monde est invité.
Sauf que tout le monde, il est pas venu.
Parce qu'il a pas pu.
Oui, oui.
Et ceux qui sont venus, ils avaient l'air très contents d'être là.
Oui, oui.
Et ils ont été très gentils.
Ils t'ont offert plein de cadeaux. Ils t'ont offert plein de cadeaux. Et toc, un octosyllabe.
Et blanc, un pléonasme. Par définition, un cadeau est nécessairement offert. En plus, plein d'eux, ça se dit pas.
Si, ça se dit.
Ça se dit, mais ça devrait pas. Quand l'objet est dénombrable, on doit dire de nombreux. Et quand il ne l'est pas, beaucoup d'eux. Très simple, pas très compliqué. Ainsi, on a bu beaucoup de vin blanc.
Et t'as reçu de nombreux cadeaux.
Surtout des livres.
Ah, les profs, ils aiment ça, les livres.
Personnellement, j'aime aussi l'opéra.
Sauf que ça coûte un bras, une place à l'opéra. Sauf que ça coûte un bras...
Cherche pas. Ça s'appelle un alexandrin, avec en plus une rime intérieure.
Waouh.
Donc, les enseignantes apprécient la lecture, voire l'opéra. Pourquoi ? Pour la raison qu'ils possèdent le capital culturel requis.
Je suis pas sûre que ça leur dit quelque chose aux gens, le capital culturel.
Ça leur dise !
Oui, bon, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est le capital culturel ? Ah bah tu vois, ça leur dise rien.
Ça leur dit rien.
Faudrait savoir.
Je te l'ai pas dit. Bon, pour faire simple. Pourquoi tu ris ?
Non, pour rien, comme ça.
Donc, pour faire simple, on dira que dans sa forme incorporée, le capital culturel désigne l'ensemble des savoirs et des savoir-faire acquis par un individu, et ce, via deux processus, dont le premier...
T'as dit que tu ferais simple ?
Oui, bon. Bref, les enseignants-gnantes ont les moyens culturels d'accéder à la littérature, voire à l'opéra, sauf que, je cite, « ça coûte un bras, une place à l'opéra ».
C'est un alexandrin avec en plus une rime dedans, c'est moi qui l'a fait.
C'est moi qui l'ai fait.
Ah non, c'est pas toi, c'est moi.
Comme quoi le mal dit engendre le malentendu. Bien, je disais donc que le coût d'une place d'opéra peut s'avérer trop élevé pour les enseignants-gnantes, compte tenu du niveau de leur capital économique.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas les sous qu'il faut.
Aussi s'offrent-ils d'abord et surtout des livres, d'une certaine qualité, bien sûr.
Ça veut dire qu'ils s'offrent pas du Marc Lévy.
En effet, le choix d'un cadeau, quel qu'il soit, doit être socialement correct, c'est-à-dire conforme aux attentes qu'égaux et autrui nourrissent réciproquement l'un à égard de l'autre.
Eh ben...
Quoi ?
Je savais pas que faire un cadeau, c'était si compliqué que ça.
Faux. Au contraire, c'est très simple.
Ouh là là là.
En effet, ces attentes sont tout simplement fonction de la position qu'occupent respectivement égaux et autrui dans l'espace social.
Voilà autre chose.
Vous aurez bien sûr reconnu l'expression qu'emploie Bourdieu pour désigner ce que d'aucuns qu'une appellent la société.
Tu parles ? Ils ont rien reconnu du tout ?
Mais si.
Je te dis que non. Quand on connaît pas, on peut pas reconnaître.
Mais enfin, ma Garance. Tout le monde connaît Bourdieu.
Ton monde à toi, mais le reste du monde, il connaît pas.
Ah. Pierre Bourdieu, 1930-2002. Il fut titulaire de la chaire de sociologie au Collège de France. C'est tout dire.
À ceux qui savent que le Collège de France, c'est pas le Collège Marcel Pagnol. Aux autres, ça dit rien du tout.
Ah. Alors, le Collège de France compte parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses.
Oui, bon, ce qu'il veut savoir, le reste du monde. Et encore, c'est pas sûr, hein. C'est pourquoi Bourdieu, il dit l'espace social au lieu de dire la société.
tout simplement parce qu'il conçoit la société, je cite, « comme un mobile de caldeire ».
Qui c'est celui-là? Un pote à Bourdieu?
Bon. Le plus simple est sans doute de vous renvoyer au chapitre 2 de la distinction.
Ben voyons.
La distinction! Un des plus grands classiques de la sociologie contemporaine.
Laisse tomber.
Pas question! Voilà. C'est ça, l'espace social.
Ouais. Et les mobiles à caldeire, c'est comment?
Très beau. Comme l'espace social. Bon, là, on se rend pas bien compte. Mais dans la distinction, aux pages 140 et 141 de l'édition 1979, c'est très beau, l'espace social.
Et les profs, ils sont où là-dedans?
Là. Aujourd'hui, ils sont là.
Et c'est parce qu'ils sont là qu'ils sauvent des livres?
Oui.
Mais pas des livres de Marc Lévy?
Non. Mais ça viendra.
Quoi?
Bah, qu'ils sauvent des livres comme ça.
Oh.
Eh oui. Peut-être même qu'un jour, ils s'offriront plus de livres du tout. Car c'est un fait. Au cours du demi-siècle passé, la position sociale des enseignants gnambes s'est dégradée. Hier, ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont...
Là. Ils sont là.
Bien. Et pourquoi sont-ils là, alors qu'ils étaient là?
Ah, bah ça, je sais pas.
Mais si, tu sais, regarde bien. S'ils sont là, alors qu'ils étaient là, c'est parce que le volume de leur capital économique, il a...
Baissé, il a baissé.
Bien!
Ça veut dire que leur salaire, il a baissé.
Pas leur salaire, leur traitement.
Ah? Ah ben, je savais pas que les profs, ils étaient traités.
En effet, le traitement des enseignants gnantes est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était dans les années 90. En euros constants, hein, bien sûr.
Je m'excuse, pardon. Si c'est du constant, ça peut pas baisser.
Comme quoi l'ignorance engendre l'incompréhension. Comme chacun qu'une devrait savoir, en euros constants signifie correction faite de la variation des prix. Autrement dit, le pouvoir d'achat des enseignants gnantes a baissé.
T'avais qu'à le dire comme ça du premier coup.
Donc, le volume de leur capital économique est inférieur à ce qu'il était naguère. Mais, me direz-vous...
Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent?
Que dans le même temps, celui de leur capital culturel s'est accru.
Ah bon?
Mais enfin, tout le monde sait que les profs sont aujourd'hui plus diplômés qu'hier.
Ah ben moi je savais pas.
Or les diplômes constituent la forme institutionnalisée du capital culturel.
Donc les profs, ils ont moins de capital économique, mais d'un autre côté ils ont plus de capital culturel qu'avant. Ben du coup je comprends pas pourquoi ils sont pas restés là où ils étaient.
En réalité... Les enseignants-gnantes ne sont pas mieux dotés qu'hier en capital culturel, car les diplômes se sont dévalorisés. Un bac vaut à peine ce que valait un BEPC, une licence ce que valait un bac, etc. Rappelons qu'on mesure la valeur d'un diplôme à son rendement professionnel, donc social. Des questions?
Ça y est, ça me revient. Tu m'as parlé de ça quand je suis venue nettoyer la gouttière. Même que tu m'as dit que c'était de la faute à...
La massification de l'enseignement secondaire et supérieur.
Voilà.
Laquelle a généré au plan collectif un effet à la fois non désiré et non désirable. Autrement dit, un effet...
Dislard.
Pervers, Carence. Un effet pervers.
Oui, bon, c'est pareil.
Donc, des constats qui précèdent, il résulte que la position sociale du corps enseignant s'est dégradée. Or, cette dégradation n'est pas anecdotique. En effet, tôt ou tard, l'idée que les enseignants gnantes se font de leur position dans l'espace social s'adaptera à son évolution objective.
Sans blague.
Car c'est un fait établi. Les superstructures d'une société finissent toujours par s'adapter à l'évolution de ses infrastructures.
Hop, 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 t'es en train de larguer le reste du monde.
C'est parce que la société change que nous la pensons différemment, et non l'inverse, comme le soutient Hegel.
Ça y est, le reste du monde est largué pour de bon.
On a le droit, bien sûr, d'adhérer à l'idéalisme hegelien.
Ça coûte combien?
Autrement dit, de croire que le mouvement des idées est au principe du changement social.
Il y a le reste du monde qui demande quand c'est la récré.
Il y en a pas, tant pis pour lui. Ou plutôt tant mieux, au moins il aura appris quelque chose.
Alors là, je suis pas sûre. Hein. Parce que pour apprendre, faut comprendre. Et toi, on comprend rien à ce que tu racontes.
Hein? Alors... Ce que j'ai dit, ça veut dire qu'il y en a qui pensent que c'est parce qu'on pense plus comme avant que la société échange. Et Hegel, il fait partie de ceux qui pensent ça. Comme les gens, ils pensent plus pareil, ils font plus comme ils faisaient avant, et du coup, la société échange. C'est compris? Donc, disais-je, on a le droit d'adhérer à l'idéalisme hegelien. Hélas. Car on a tort, devant l'histoire, l'histoire qui, aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, a donné le plus souvent raison à Max.
Ah oui, mais ça veut dire qu'il y a des fois où c'est égal qu'à raison, non?
Si, mais ces fois-là ne comptent pas. Il ne s'agit que d'exceptions dont la vertu est de confirmer la règle. Le moteur de l'histoire réside dans la contradiction entre l'état des forces productives et celui des rapports de production.
Oh, je savais pas que t'étais communiste.
Non, pas du tout.
Bah, y a pas de honte, tu sais.
Je sais. N'empêche que non, je suis pas communiste.
Ok, te fâche pas.
On peut, comme moi, ne pas être communiste, sans pour autant jeter la philosophie marxiste avec l'eau du bain de l'histoire, dans laquelle le socialisme réel a sombré.
Ça veut dire que c'est pas la faute à Marx si l'Union soviétique s'est cassée la gueule.
N'oublions pas que Marx était d'abord et surtout un philosophe.
Oui, mais pas que.
Exact. Il fut aussi un théoricien du capitalisme, qu'on fait...
Das Kapital. Ça veut dire « le capital », mais c'est mieux de traduire par « le capitalisme ».
En effet, Marx a conçu cette œuvre monumentale dans le but d'apporter, je cite, « la preuve scientifique que le destin du capitalisme est de céder la place à la propriété collective des moyens de production ».
Qu'est-ce que c'est, la propriété collective des moyens de production ?
Question essentielle. Qu'est-ce que concrètement cette propriété collective des moyens de production ?
Te fatigue pas, on sait pas.
Évidemment, car Marx ne répond pas à cette question pourtant essentielle.
Non ?
Si, il laisse, je cite, « aux popotes de l'histoire le soin de la régler ».
Ah, il fait le coup de l'intendant suivra ?
Oui, on peut dire ça.
Donc De Gaulle, il était marxiste ?
Bien sûr que non !
Ah ben je m'excuse, pardon, De Gaulle, il l'a dit, l'intendant suivra.
Pure légende !
De Gaulle ?
Non ! Enfin si.
Faudrait savoir.
Exact. Il conviendrait de savoir que, contrairement à une légende tenace, De Gaulle n'a jamais dit « l'intendant suivra ».
Ah bon ? Et vive le Québec libre ! Il l'a dit ou il l'a pas dit ?
Il l'a dit.
Ah, quand même !
Donc, à la question « qu'est-ce que la propriété collective des moyens de production ?», Marx ne répond pas. En tout cas, pas de façon précise.
T'es sûr ?
Bah, évidemment.
Donc, t'as lu « Das Kapital » en entier ?
Bien sûr que non ! T'en connais, toi, des gens qui ont lu « Das Kapital » en entier ? Non, eh ben moi non plus. À part Althusser, évidemment.
Qui c'est celui-là ?
Althusser, alias... Ah, tu sers trop fort ! Ah, tu sers trop fort !
Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein.
Pardon.
Bon, vu que Marx s'en est remis aux popotes de l'histoire, c'est Lénine qui a fait la cuisine.
Oh,
c'est Lénine qui a fait... Et toc, un octosyllabe !
Dans des popotes qui furent hélas des athanors. C'est pas mal, ça, hein? Des popotes qui furent, hélas, des athanors. Je leur servirai.
Tableau 2. Homo economicus est un sale type. Garance s'active dans son coin. Isa se tient debout face à l'armoire.
C'est pas tout ça. Faut que je m'occupe de toi.
Tu parles à l'armoire ?
Et alors ? C'est pas plus con que de parler au mur. Avant, j'avais pas le temps de m'occuper de toi. Maintenant, je l'ai. Je suis retraitée de la fonction publique et donc payée à rien faire.
Bah, comme avant, hein.
Bien sûr. Sauf que pour rien faire, je suis encore moins bien payée qu'avant.
Oh, ça va, on va pas se fâcher pour si peu.
Pour si peu, c'est qu'à de le dire. Ah, si tu ris pas, c'est que t'as pas compris pourquoi c'est drôle. Tu veux que je t'explique ? Non, tu veux pas ? Bon, fais-moi signe quand t'auras fini de bouder. Prends ton temps, je suis pas pressée. Je peux attendre, j'ai que ça à faire depuis que j'ai plus de cours à préparer, ni de copies à corriger. Les copies, la corvée, tu peux pas savoir.
Non, je peux pas. Chacune son boulot.
Bien sûr. Remarque, c'est pas compliqué, suffit de mettre les points là où il y en a pas.
Ah.
Au bac, en tout cas, on est obligé de faire comme ça. Hein.
Ah.
Sinon, le taux de réussite, il serait pas comme il faut. C'est sûr. Les copies, ça me manque pas. Par contre...
En revanche.
Non.
Si.
Non.
Si.
Alors, selon le Robert, la locution « en revanche » s'emploie pour signifier « au contraire ».
Ah.
Sauf... Qu'en toute logique, l'emploi de « en revanche » ne se justifie que s'il s'agit d'annoncer une réparation, une compensation positive. Aussi est-il absurde de dire « le confinement a permis de freiner l'épidémie de Covid, en revanche, il a provoqué une récession économique ». Tu sais, l'armoire, ce qui me manque le plus, c'est les élèves. Tous ces élèves que j'ai connus. Et puis tous ceux qui ne connaîtront jamais.
Le bol,
tu disais.
Rien, je parlais à mon balai.
Bon. J'ai plus d'élèves, mais toi, je t'ai. Et je vais te vider comme il faut, méthodiquement. S'agit de pas gaspiller mon temps. T'as raison. Du temps, j'en ai plein. Je veux dire, beaucoup. Je peux en perdre. Il vaut pas grand-chose. Vu que l'utilité marginale est décroissante.
Ben voyons.
Me dis pas que tu sais pas ce que c'est.
Quoi?
L'utilité marginale.
Ben si, je te le dis. Je sais pas. C'est grave?
Non, mais...
Mais quoi?
C'est pour le moins regrettable.
Ah.
Car il s'agit de la pierre angulaire de la théorie néoclassique. Ideste.
C'est-à-dire?
Exact. C'est-à-dire. Ideste, la théorie à laquelle la très grande majorité...
Ça veut dire quoi?
Quoi?
Ideste.
Ah! Ça veut dire, c'est-à-dire. Merci, ma garance. Merci d'avoir posé cette question. Si, merci. En effet, le plus souvent, le reste du monde ignore le sens des expressions latines.
Ça y est, la blague partie pour un tour.
Ideste, littéralement cela est. Autrement dit, ce qui veut dire. On notera la concision du latin. C'est encore plus vrai à l'écrit. Ainsi, ideste s'écrit en deux lettres, I-E. De même, versus s'écrit V-S. Ibidem, ibit. Et alii, et al. Postscriptum, B-S. Ad libidum, ad lib. Etc., E-T-C. Bref.
C'est pas le cas de le dire, hein. Tu ris pas? Ah, si tu ris pas, c'est que t'as pas compris pourquoi il est drôle, ton bref. Tu veux que je t'explique? Non? Tu veux pas?
Donc, disais-je, la théorie néoclassique est celle à laquelle adhèrent la plupart des économistes distingués.
Oui, bon, ça répond pas à la question.
Qui était?
Dis, papa, c'est quoi l'utilité marginale?
Ah oui. Voilà, c'est ça, l'utilité marginale.
Ouais.
Tu veux que je traduise?
Je veux bien. En français, si possible.
Évidemment.
Non, je dis ça des fois que t'aurais traduit en latin.
Alors, l'utilité marginale d'un bien de consommation, c'est la limite vers laquelle tend le rapport entre la croissance du niveau de satisfaction et celle de la quantité consommée, laquelle est supposée infinitésimale. Donc, l'utilité marginale, c'est tout simplement la dérivée première de la fonction d'utilité. En un point, évidemment.
Évidemment.
T'as compris?
Oui, oui.
Tu dis pas ça pour me faire plaisir.
Non, non.
Taratata! En fait, t'as rien compris du tout. Vous non plus. Vous avez rien compris.
Mais si, je t'assure, on a compris. Hein? On a compris?
Tu parles. Qu'on vienne pas me dire que le niveau monte. Ça fait 40 ans qu'il baisse. Oh! Elle est belle! L'école de la République. Et qui c'est qui trinque le plus, hein? Qui c'est?
Les élèves issus des milieux les plus défavorisés au plan culturel.
Parfaitement. Tandis que les héritiers, eux, ils s'en tirent.
Les héritiers, c'est le nom d'un bouquin qu'elle aime bien.
Coécrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron.
C'est pas tout jeune, hein, ça date de 1964. C'est un bouquin qui montre que le meilleur moyen pour pas faire d'échec scolaire, c'est d'avoir des parents capables de te filer le capital culturel qu'il faut. Par exemple, des parents qui causent bien la France, qui vont au musée, tout ça. J'ai bon, Isa?
Sur le fond, oui. Quant à la forme, elle laisse, comme toujours, à désirer. Alors, nous l'avons dit, l'utilité marginale est décroissante. La satisfaction que procure la consommation d'un bien ou d'un service augmente de moins en moins à mesure que s'accroît cette consommation. Pourquoi? Pour la raison que l'intensité du besoin ressenti diminue. Ainsi, par exemple, plus on boit, moins on a soif.
Ça dépend de ce qu'on boit.
En l'occurrence, on est censé boire de l'eau. Ainsi, chaque verre d'eau supplémentaire procure une satisfaction moindre que celle procurée par le verre précédent. Bien. Comme chacune sait, l'eau est une variable continue.
En tant que chacune, je savais pas que l'eau, elle varie, comme t'as dit.
Ma pauvre enfant. Vu l'année où t'as décroché ton bac, ça ne m'étonne pas. On rappellera qu'il est d'usage de distinguer les variables continues des variables discrètes. Cette armoire, par exemple, relève de la catégorie variable discrète.
La preuve, c'est qu'elle te répond pas quand tu lui parles.
D'abord, c'est pas vrai qu'elle me répond pas. Ensuite, une variable discrète, ça veut pas dire ça.
Ah.
L'armoire, c'est une variable discrète parce que tu peux en avoir une, deux, trois, mais tu peux pas en avoir...
Quatre. Quatre, tu peux pas.
Si! Et même 5, 6, 7, 150. Par contre, tu peux pas avoir 2,72 armoires. Alors que tu peux avoir 2,72 litres d'eau, compris?
Oui, oui.
Tant mieux. Bon, si le bien X est une variable continue, la fonction d'utilité sera, elle aussi, continue. Cette fonction, on le voit, est croissante. Une augmentation de la consommation de X génère un niveau de satisfaction plus élevé. Donc, la dérivée première de cette fonction est...
Comme il faut. Ben, sinon, elle serait pas première.
Positive. Cette dérivée première est positive.
Ah, remarque, c'est pas mal non plus d'être positive.
L'allure de cette courbe renseigne aussi sur le signe de sa dérivée seconde.
Oh. Et c'est quoi son signe? Verseau? Sagittaire?
Négatif.
Ah. Alors si c'est pas du Verseau du Sagittaire, ça doit être du Gémeaux.
Mais enfin, c'est évident.
Ah.
À mesure que la consommation de X augmente, le niveau de satisfaction s'accroît, mais de moins en moins. Donc la dérivée seconde de cette fonction est négative. Or, qu'est-ce qu'une dérivée seconde?
Celle qui vient après la première?
Exact.
Et c'est la seconde parce qu'il n'y en a pas trois.
En effet, il n'y a pas de dérivée troisième.
Ah, comme quoi quand je veux.
Une dérivée est qualifiée de seconde quand elle est elle-même la dérivée de la dérivée première.
Ah.
Or, nous l'avons dit, la dérivée première de cette fonction, c'est la fonction d'utilité marginale, laquelle est décroissante, puisque sa propre dérivée est négative. C'est QFD.
C'est du latin?
Non, du français. Ce qu'il fallait démontrer. Mais on peut le dire en latin, hein. Quod erat demonstrando.
C'est bon, ça ira.
Nous vous offrons une courte pause d'utilité marginale. C'est bon, vous êtes prêts? On y retourne?
N'empêche, je sais toujours pas pourquoi tu dis que ton temps, il vaut pas grand-chose.
Parce que ça n'est que de l'eau, camarade. Ça n'est que de l'eau.
Et alors?
Et alors, le temps, c'est comme l'eau. Une variable continue.
Ouais.
Bon, deux illustrations valent sûrement mieux qu'une. Alors, soit deux individus, A et B. A fait la manche devant le supermarché, tandis que B est redevable de l'ISF. De ces prémices, on peut aisément tirer la conclusion que le revenu de B excède sensiblement celui de A. Or, du niveau de revenu dépend celui de la consommation, donc de la satisfaction des besoins matériels. Bien, supposons maintenant que A et B perçoivent chacun un euro de plus. À la marge, cet euro accroît bien davantage la satisfaction de A que celle de B.
Il tient pas debout ton exemple. B, il n'existe plus depuis que ni gauche ni droite, il a supprimé l'ISF.
Exact. Disons plutôt que cet euro de plus augmentait bien davantage la satisfaction de A que celle de B, lequel était à l'époque, paraît-il, excessivement taxé.
À refaire, les à l'époque, on s'en fout. Faut un exemple actuel. En plus, je te ferais dire que c'est pas parce que B, il paye plus l'ISF, que A fait plus la manche.
Exact. Alors, un euro de plus, ça augmente bien plus la satisfaction de celui qui a pas de sous que la satisfaction de celui qu'on a plein. Surtout depuis qu'il paye plus l'ISF. Ça te va?
Ouais. Sauf qu'il faut pas dire plein d'eux.
Ah, sauf que là, j'ai pas le choix, hein. Si je dis beaucoup de sous, ça va pas, parce que les sous, c'est dénombrable. Et si je dis de nombreux sous, ça va pas non plus, parce qu'il y a rupture de style. Des questions?
Dans l'exemple, on sait pas si A, il fait la manche devant Monoprix, Super U ou Carrefour Market. Ça veut dire que ça change rien?
Exact! Peu importe le lieu où A fait la manche. Peu importe également l'âge, le sexe et autres attributs de A et de B. L'un et l'autre sont des homo economicus, ou, devrais-je dire, des homines economici.
C'est qui cela?
Homo economicus, l'archétype de l'agent économique tel que le conçoivent les économistes néoclassiques. Ses seuls attributs sont l'égoïsme, Il ne se soucie que de son propre intérêt et la rationalité instrumentale. Homo economicus est supposé capable d'opter parmi les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour celle qui maximisera sa satisfaction.
J'ai pas tout compris.
Bon, je reprends.
Non, c'est pas la peine.
T'es sûre?
Oui. J'ai compris ce que je voulais comprendre.
C'est-à-dire?
Pourquoi ton temps, tu dis qu'il vaut pas grand-chose?
Et vous? Vous aussi, vous avez compris?
Oui, t'inquiète.
Bon. Donc, mon temps ne valant pas grand-chose, je peux me permettre d'en perdre. Sauf que j'ai pas envie. Plus vite je t'aurai vidé l'armoire, plus j'aurai de temps pour faire autre chose, de plus intéressant.
Quoi, par exemple?
Bon, de toute façon, c'est pas parce que mon temps il vaut pas grand-chose qu'il vaut rien. D'accord, son utilité marginale est faible, mais elle est pas nulle. Elle ne l'est pas, mais elle pourrait l'être. Au point A, cette fonction, on le voit, atteint un maximum. Donc, en ce point, sa dérivée première est nulle.
Elle est nulle.
Et au-delà de ce point, la fonction est décroissante. Autrement dit, Homo economicus est entré dans la zone dite de désutilité. À mesure que sa consommation augmente, sa satisfaction diminue. Ainsi, par exemple, bonum winum laetificat corominis.
Dans le genre exemple actuel, il y a mieux.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Le latin n'a rien perdu de son actualité. Il est toujours vivant au travers de nombreux idiomes.
Oui, bon, ça veut dire quoi, bonum je sais pas quoi?
Quand je pense qu'hier, on enseignait le latin dès la classe...
De maternelle.
De sixième. Oh, tempora! Oh, mores!
Sois gentil, remets pas le couvert. Dis-moi plutôt ce que ça veut dire ton bonum machin, etc.
Ah, tu vois, tu parles latin. Etc., c'est du latin. Ça veut dire « le bon vin réjouit le cœur de l'homme ». Mais au-delà d'un certain seuil, sa consommation génère moult désagréments, dont celui de s'exposer aux foudres de la maréchaussée.
Tableau 3. Quand la violence est symbolique. Garance s'active dans son coin. Isa se tient debout, face à l'armoire.
Bon, puisqu'il paraît que j'ai rien d'autre à faire de plus intéressant, je vais te vider l'armoire. Méthodiquement. 1. Je fais le tri entre ce que je garde et ce que je garde pas. 2. Les choses que je garde pas, je les donne ou je les jette. 3. Les choses que je jette, je les trie, selon qu'elles sont recyclables ou pas. Voilà, très simple, pas très compliqué. Cependant, il reste à décider des critères sous lesquels seront réalisés les deux premiers tris. Or, quand on trie, on classe. C'est pourquoi, selon Bourdieu, le choix des critères est révélateur de ce qu'il nomme l'habitus. Ce concept d'inspiration aristotélicienne désigne, je cite, « un ensemble de prédispositions acquises durablement et qui fonctionnent comme un système de classement ». Nous aurons bien sûr l'occasion de préciser le sens et la portée de ce concept à mesure que nous viderons cette armoire.
Chouette.
Faut d'abord que je fasse le tri entre ce que je garde et ce que je garde pas. Genre les trucs moches ou qui me servent à rien. Le problème, c'est que là-dedans, il y a que des choses comme ça.
Ah, n'empêche que tu les as gardées.
Bah, j'ai dû me dire, on sait jamais. Ça pourra peut-être servir un jour. Ou plaire à mes enfants. Et puis, il y a des cadeaux. De la part de gens très gentils, mais pas du tout au courant du socialement correct. Quand je pense qu'ils pourrissent là, depuis des années. Tout ça parce que mes goûts sont que le dégoût des goûts de gens très gentils. Si je me souviens, doit y avoir un plat crustacé, en faïence, avec des crabes et des crevettes en relief.
Et il y a aussi des moules.
Un éventail en plastique sur fond de corrida, estampillé souvenir de Séville. Et puis, bien sûr, des livres de Marc Lévy, des CD de Michel Sardou. Que ceux que j'ai froissés en exprimant mon dégoût du goût des autres se défroissent. Je viens d'exercer sur eux une violence symbolique dont les effets se dissipent dès qu'on prend conscience d'en être la victime. Ça va mieux?
Pas sûr.
Ah, sans doute faut-il préciser le sens et la portée de ce concept clé de la sociologie bourgeoisienne. Alors, ego exerce sur autrui une violence symbolique dès lors qu'il lui impose de facto ses propres représentations de ce qu'il convient de faire, de penser, de dire. Ainsi, exprimer son dégoût pour les plats crustacés décorés de crevettes et de crabes.
Il y a aussi des moules.
C'est manifester le sentiment d'être en droit de voir, de distinguer le bon du mauvais goût. Il va de soi que cette violence symbolique participe du rapport de domination qui, selon Bourdieu, structure des sociétés telles que la nôtre.
T'as donné qu'un exemple ? D'habitude, t'en donnes deux.
Exact. Deux illustrations valent mieux qu'une. Bon, autre exemple de la manière dont s'exerce cette violence symbolique. L'emploi d'expressions telles que « il va de soi », « vous n'êtes pas sans savoir ».
Comme chacun qu'une sait.
Se disant « on exerce évidemment une violence symbolique sur ceux celles qui sont sans savoir, mais qui se gardent bien de le dire, pour la raison qui elle pense, qui elle devrait savoir ce que chacun qu'une sait ».
Donc, quand je te dis que je sais pas ce que je devrais savoir, je la subis pas, moi, la violence symbolique.
Exact.
Ah, quand même.
Tu sais, quand on est prof, c'est pas facile de pas être violent symboliquement. Surtout depuis que le niveau monte.
Et c'est reparti.
Plus il monte, et plus il y a d'élèves qui savent pas ce qu'ils devraient savoir. Tu leur causes dérivée première, il y en a la moitié qui collapse. Du coup, pour pas te retrouver toute seule, t'évites de dégainer l'accord des participes passés.
Ah, si t'avais été ministre de l'Éducation nationale...
On n'en serait pas là, c'est sûr. Bon, les choses qui sont dans cette armoire, parce que je les ai trouvées moches, il y a des chances pour que je les trouve toujours aussi moches.
Il y a des chances, oui. La faute à l'habitus.
Exact. Mais c'est pas une raison pour que je les jette. D'abord, il y a les cadeaux. Ensuite, il y a des choses qui pourraient peut-être plaire à mes enfants. Par exemple, il y a un service à fondu pour 12. Si. Je l'ai acheté un jour où j'avais pas le moral. Il est F. Je m'en suis jamais servi.
T'aurais pu le donner ?
À qui ?
Bah, à des gens qui ont pas les sous pour s'acheter ça.
Non.
Pourquoi ?
Parce que la fondue, c'est pas dans l'habitus de la fraction dominée des classes dominées.
Qui c'est cela ?
Les plus démunis au plan économique et culturel. Ces gens-là ont, selon Bourdieu, des goûts de nécessité. Ils n'apprécient pas les biens auxquels ils n'ont pas les moyens d'accéder. Autrement dit, je cite, ils refusent le refusé.
Ah, par exemple, vous les profs, vous aimez pas les grosses voitures, genre 4x4 ou SUV, ni les vacances à l'autre bout du monde dans des clubs de luxe.
Voilà, on trouve ça vulgaire.
Vous préférez les 208 et les gîtes ruraux en Corrèze.
Ou en Ardèche. L'Ardèche aussi, on aime bien.
En fait, vous les profs, vous faites le même coup que le renard avec les raisins.
Le renard et les raisins. Célébrissime fable du non moins célèbre Jean de La Fontaine, dont la chute est, je cite, « ils sont trop verts ».
Les raisins. Le renard, il dit qu'ils sont pas mûrs.
Et bon pour des goujats. Fait-il pas mieux que de se plaindre ? Cette chute illustre parfaitement le propos de Bourdieu. Confronté à l'impossibilité d'accéder aux raisins qu'il convoite...
Parce que les raisins, faut sauter pour les attraper, mais le renard, il n'arrive pas à sauter assez haut...
Il décrète que ces raisins ne sont pas à son goût.
Vu qu'il peut pas les avoir, il préfère dire qu'il en veut pas.
Bien. À ces goûts de nécessité s'opposent, selon Bourdieu, les goûts de luxe. Idées des préférences qui ne sont pas contraintes par un capital économique et ou culturel insuffisant. Ainsi... Les enseignants ont les moyens économiques et culturels de préférer Proust à Lévy et Brel à Sardou.
Vu que Proust et Brel, ils coûtent pas plus cher que les deux autres.
Alors que la fondue pour 12, ça coûte un bras.
Ah bah surtout si c'est de la bourguignonne.
Remarque, la savoyarde, c'est pas donné non plus, hein.
Sauf si tu mets de la vache qui rit.
On devrait pas se moquer des goûts de la fraction dominée, des classes dominées.
T'as raison. Pardon pour Dieu.
Et puis, il faut pas exagérer. Leur mauvais goût vaut quand même pas jusque-là.
Oh.
Ah bon ? En tout cas, le premier tri, c'est comme s'il était fait.
Mais va quand même falloir le faire.
Oui, bon. Le deuxième tri devrait pas non plus poser de problème. Je donne les choses dont j'ai pas besoin.
Preuve que c'est pas parce qu'on donne qu'on est généreux.
En effet. Et généreux, celui-celle qui sacrifie sciemment sa propre satisfaction afin d'accroître celle d'autrui.
Cruel.
Ce dont, bien sûr, homo economicus est incapable.
Lui qui a que son intérêt qui l'intéresse.
Or, la théorie néoclassique prétend rendre compte des différents usages que les gens font de leurs revenus et de leur patrimoine. Usage dont la générosité fait bel et bien partie, non ?
Si.
Donc, les néoclassiques sont confrontés à une aporie.
À quoi qui ?
Une aporie. Un problème de logique, a priori insoluble. Qui aurait dû les mettre à Couilla.
Où ça ?
Mais on le sait, les néoclassiques ont plus d'un tour dans leur sac. Aussi sont-ils parvenus à résoudre le problème.
Trop fort, les néoclassiques.
En montrant qu'égoïsme et générosité sont compatibles.
Non.
Si. En effet, Homo economicus peut avoir intérêt à faire preuve de désintéressement quand ce dernier s'avère in fine rentable. Confère par exemple les dons que font des stars du showbiz ou de l'entreprise à des causes très médiatisées car très politiquement correctes. Ces dons sont en réalité des investissements réalisés dans le but de valoriser leur image et, du même coup, leur chiffre d'affaires.
Eh ben, c'est pas joli joli, hein.
Quoi ?
Bah, le coût du désintéressement intéressé.
Certes. Heureusement, tous les gens sont pas comme ça. Il y en a, leur primum mobile...
Leur quoi ?
Leur motivation première.
Mais pourquoi t'as pas dit ça du premier coup ?
Parce que je suis prof. Enfin, je l'ai été longtemps. Bref, il y a des gens, leur primum mobile, c'est pas leur intérêt à eux. Ce qui les motive, c'est l'intérêt collectif.
Oh ?
Si, je t'assure.
T'en connais, toi, des gens comme ça ?
Non. Mais ça veut pas dire qu'il y en a pas.
Ah bah, il y en a, forcément. Ou alors, il n'y a plus qu'à faire une croix sur l'intérêt collectif.
À moins de considérer que chacuncune, en poursuivant la satisfaction de son propre intérêt, contribue sans le vouloir à celle de l'intérêt collectif.
Ceux qui considèrent ça, ils adhèrent à la loi de l'harmonisation naturelle des intérêts.
Comment tu sais ça, toi ?
Ben parce que tu me l'as dit, la dernière fois que je suis venue déboucher l'évier.
Ah oui, je me souviens.
Et j'espère que tu te souviens aussi de ce que je t'ai dit. La crépine est fichue, faut la changer.
Oui, oui. Donc, j'ai dû te parler d'Adam Smith.
Qui ça ?
Adam Smith, 1723-1790. On lui doit la célébrissime métaphore de la main invisible.
Attends. Oui, oui, ça me revient. Même que sa métaphore, elle est dans le chapitre 2 du livre 5 de l'essai sur la nature et les causes de la richesse des nations. Bon, le seau, je le laisse là ou t'en as besoin ? Ok, je le rapporte à la cuisine. De toute façon, faut changer l'eau et rincer l'éponge.
Tableau 4. La révélation du No Bridge. Garant s'active toujours dans son coin. Isa se tient debout face à l'armoire.
Est-ce que je t'ai dit, la dernière fois que t'es venue déboucher l'évier, ce que c'est la main invisible pour les néoclassiques ?
Non, je crois pas.
Ah.
T'inquiète, hein, des fois il y en aura d'autres, vu que t'as pas changé la crépine.
Alors, dans son acception néoclassique, la main invisible désigne la capacité des marchés de concurrence pure et parfaite à s'autoréguler. L'offre et la demande s'ajustent l'une à l'autre sans qu'il soit besoin d'une intervention extérieure.
Par contre, en revanche, pour l'évier, il y a besoin.
C'est-à-dire d'une intervention de l'État.
Compte pas sur lui pour changer la crépine.
En effet, dès lors que les conditions de la concurrence pure et parfaite sont satisfaites, les prix des biens et services sont parfaitement flexibles, à la hausse comme à la baisse, ce qui assure l'équilibre des marchés. Autrement dit, l'offre d'un bien est une fonction croissante de son prix unitaire et la demande une fonction décroissante. Or, quand l'offre d'un bien excède sa demande, le prix unitaire baisse, générant à la fois une diminution de l'offre et une augmentation de la demande jusqu'à ce que l'offre égale la demande. Inversement, un excès de la demande sur l'offre générera une hausse du prix unitaire, donc une baisse de la demande et une augmentation de l'offre jusqu'à ce que l'une et l'autre s'équilibrent. Voilà, très simple, pas très compliqué.
Suffit de changer la crépine.
Cet équilibre des marchés est stable. Autrement dit, il peut être atteint et retrouvé toutes les fois que les marchés s'en éloignent. Enfin, sachez que...
Un évier bouché, deux fois sur trois, c'est la faute à la crépine.
Donc, sachez que cet équilibre est qualifié de général quand il se réalise au plan macro.
Et on dit comment quand c'est au plan sardine ?
Ha, ha, ha ! C'est-à-dire au niveau de l'ensemble de l'économie. À ce propos... Rappelons que l'on doit à Léon Valras, 1834-1890, d'avoir formulé le premier modèle d'équilibre général en langage mathématique.
Chapeau Léon.
Il s'agit d'un système d'équations conçu de sorte à ce qu'il n'ait qu'une et une seule solution.
Ah pareil, hein. Pour les vieux, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. Suffit de changer la crépine.
Est-ce que tu te rends compte que c'est pas de la tarte ?
De changer la crépine ?
De concevoir un système d'équations comme celui-là ! Valras, il a pu, parce qu'il touchait sa bille en maths.
Il savait résoudre les problèmes de trains qui se croisent ?
Évidemment.
Des baignoires qui se remplissent ?
Oui.
Et les éviers qui se vident pas, il savait faire aussi ?
Oui. Donc, Valras est parvenu à formuler en langage mathématique le problème de l'équilibre général de sorte à ce qu'il n'ait qu'une et une seule solution.
Et alors ?
Ben c'est tout.
Non, et la solution c'est quoi ?
Il l'a pas donnée.
Ah bon ?
Non.
Il l'a laissée aux popotes de l'histoire ?
Oui. En l'occurrence, celle de la pensée néoclassique, laquelle ne s'est souciée que fort tardivement de résoudre le système valracien.
Vaut mieux tard que jamais.
Certes.
Sauf quand le problème il urge.
Évidemment.
Je dis ça rapport à l'évier parce que...
Ainsi, ce n'est qu'au début des années 1970 que trois économistes distingués entreprendront chacun de leur côté de résoudre le système valracien. Sonnenschein, Mantel et Debreu. Or, tous trois aboutiront à la même conclusion.
Suffit de changer la crépine.
L'équilibre valracien n'est pas stable.
Ça veut dire qu'on peut pas l'atteindre ou le retrouver si on le perd.
Donc la concurrence pure et parfaite n'a pas la vertu qu'on lui prête.
Et pourtant, elle est pure, la concurrence.
Elle ne garantit pas la réalisation d'un équilibre général stable. Cette conclusion est évidemment une catastrophe pour la théorie néoclassique.
Ah bah d'ailleurs, on l'appelle comme ça, la catastrophe Sonnenschein-Mantel-Debreu.
Exact.
Ou alors la révélation du Nobridge.
Mais comment tu sais ça, toi ?
Mais parce que tu me l'as dit. Vu le nombre de fois où je suis venue déboucher l'évier, t'as eu le temps de me raconter tout ça.
Pourtant, tout à l'heure, quand je t'ai demandé...
Si je savais ce que c'était la main invisible ?
Oui.
Version néoclassique ?
Oui.
Je t'ai dit non ?
Oui. Pourquoi ?
Parce que je te connais. Je sais bien que t'aimes bien raconter la belle histoire des néoclassiques.
C'est vrai. C'est vrai. L'expression « no bridge » veut dire qu'il n'y a pas de pont.
Ça, ils le savent quand même que « no bridge », ça veut dire pas de pont.
Pas de pont, donc, entre le niveau micro et le niveau macro.
Ou merlu.
Autrement dit, que ce qui vaut au plan micro ne vaut pas nécessairement au plan macro.
Ou moru.
Ce qui, en soi, n'est pas vraiment une révélation.
Ça, c'est sûr.
En effet, la révélation du Nobridge ne fait que confirmer le célébrissime...
paradoxe de Condorcet. Qui, comme chacun qu'une sait...
Mais peut-être pas le reste du monde, hein, Garand.
Bon, alors, le paradoxe de Condorcet, vous connaissez ou pas ?
Ils connaissent pas.
C'est l'histoire de trois types. Un, deux, trois. On leur demande de classer trois trucs.
Trois objets. A, B, C.
Oui, bon, c'est pareil. Selon ce qu'ils préfèrent.
Plus précisément, par ordre de préférence décroissante.
Et leurs préférences, elles sont pas pareilles.
En effet, cela donne... 1 préfère A à B et B à C. 2 préfère B à C et C à A. 3 préfère C à A et A à B. Ces trois individus sont doués de raison.
Ça vient que Condorcet, c'était un philosophe lumineux.
Un philosophe des Lumières !
Oui, bon, c'est pareil. Il était brillant.
Donc, parce qu'ils sont doués de raison, ces trois individus ont des préférences transitives.
Ça veut dire que si tu préfères la pomme que la poire...
Ah ! La poire !
Et la poire au Scooby-Doo ?
Bien.
Eh bien, forcément, t'aimes mieux la pomme que le Scooby-Doo.
Voilà. Puis, l'on soumet à la préférence collective le choix entre A et B. A est préféré à B. Puis le choix entre B et C, B est préféré à C.
Du coup, comme ils préfèrent A à B et B à C, on se dit qu'ils aiment mieux A que C. Eh ben non, ils préfèrent C.
Ainsi, la préférence collective n'est pas transitive, alors qu'elle résulte de l'agrégation de préférences individuelles qui, elles, le sont.
Étonnant, non ? Et il peut y avoir autant de gens et d'objets que tu veux, c'est pareil.
Sauf dans le cas où les préférences individuelles s'avèrent être rigoureusement les mêmes.
Quand il y a une humanité.
Unanimité.
Oui, bon. Ça veut dire quand tout le monde, il aime mieux les pommes que les poires et les poires que les Scooby-Doo. Ou alors quand tout le monde, il aime mieux les poires que...
Voilà. Condorcet a donc mis en évidence que le tout diffère des parties bien qu'il soit le produit de leur agrégation. Or, c'est à cette conclusion que Sonnenschein, Mantel et Debreu ont eux-mêmes abouti quelques 200 ans plus tard. En toute logique, cette conclusion aurait dû contraindre les néoclassiques à renoncer à expliquer le macro par le micro.
La baleine par les perlans.
Autrement dit, le tout par la partie.
Eh ben non, ils ont pas renoncé. Ah mais c'est des têtus les néoclassiques.
Oh là là, ils ont relevé le défi. Résoudre le problème du Nobridge sans renoncer à expliquer...
le cachalot par la crevette.
La recherche de cette solution a notamment mobilisé des économistes néo-keynésiens.
Attention, hein. Ceux-là, ils sont keynésiens comme moi, je suis...
experte dans l'art de déboucher les éviers.
Ouais, pardon, je m'excuse, je le suis. Suffit de changer la crépine.
Qualificatif néo-keynésien prête, il est vrai, à confusion. Il ne s'agit pas de nouveaux keynésiens, mais d'économistes néo-classiques ayant jugé utile et possible d'emprunter à Keynes. John Maynard Keynes, 1883-1946.
C'est pas les premiers à faire ce coup-là, emprunter à Keynes.
Exact. En effet, les travaux réalisés par les néo-keynésiens relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler la seconde école de la synthèse.
Tant mieux.
Parlons.
Bah oui, si c'est la seconde, ça veut dire qu'il n'y en aura pas trois.
Certes. Alors, il faut savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale...
Là, par contre, en revanche, ça veut dire que c'est peut-être pas la dernière.
Donc, disais-je, au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, certains néo-classiques, et non des moindres, ont inauguré cette voie dite de la synthèse, confère le célébrissime modèle ISLM, auquel les étudiants en sciences économiques se frottent depuis plus d'un demi-siècle. Ce modèle est un pont aux ânes.
Eh, ça vaut mieux que pas de pont du tout, hein.
Sauf que le coup de la synthèse, il marche pas.
Ah bon?
Parce qu'il peut pas marcher.
Ah bon?
Keynes, il est pas soluble dans Valras.
Et pourquoi Keynes, il est pas soluble dans Valras?
Ah, je t'expliquerai ça plus tard. Bref, les néo-keynésiens sont parvenus à résoudre le problème du Nobridge.
Oh, mais c'est bien, ils devaient être contents.
Comment y sont-ils parvenus?
Je sais pas.
Moi, je sais. En montrant que l'agrégation de comportements individuels rationnels pouvait générer au plan collectif un effet non désiré et non désirable.
Vous vous rappelez? C'est l'effet Wieslard. C'est le même coup que les diplômes qui ont plus la même valeur qu'avant.
Pour parvenir à cette solution, les néo-keynésiens ont emprunté aux mathématiques la théorie des jeux.
Eh ben comme quoi, question emprunt, ils hésitent pas, hein, les néo-classiques. D'abord, ils empruntent à Keynes, ensuite, ils empruntent aux maths. D'ici à ce qu'ils empruntent à Cofidis, je vais te dire, il n'y a pas loin.
Tableau 5. Le dilemme du prisonnier. Garant s'active encore dans son coin et Isa se tient debout face à l'armoire.
Prendrais bien un petit café.
Puisque tu me demandes pas, moi aussi.
Allez, c'est parti, on va se faire un petit café.
Qui c'est, on ?
Je sais pas.
Moi non plus.
D'habitude, c'est toi. Mais si tu veux, je peux m'en occuper.
Je veux bien. Surtout qu'avant, faut détartrer la cafetière.
Encore ? On l'a fait il y a à peine un mois.
Je l'ai fait.
Finalement, vu l'heure, je vais pas prendre de petit café.
Puisque tu me demandes pas, moi non plus.
Ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait encore ?
Rien. T'as rien fait. C'est moi qui fais tout.
Eh ben, on met entendre ça que d'être sourde. Et l'armoire, qui c'est qui va la vider ?
Bah toi. Sauf qu'à cette heure, il y a toujours rien de fait.
T'es marrante. Je peux pas être au four et au moulin.
Ah bah ça, pour mouliner, tu moulines, c'est sûr.
Je voudrais t'y voir, vider l'armoire, alors que je suis en plein dans le chapitre 3, à la recherche des fondements micro de la macroéconomie. Bon, je finis de dire ce que j'ai à dire, et puis après, promis, hein, je vide l'armoire. Si les néo-keynésiens ont emprunté aux mathématiques la théorie des jeux, c'est pour une raison simple.
Pour une fois que c'est simple, on va pas se plaindre.
Certains jeux ont pour issue, idès conclusion, celle à laquelle Sonnenschein, Mantel et Debreu ont eux-mêmes abouti.
Le tout, il est pas comme les parties, même si c'est les parties qui font le tout.
Or, ce type d'issue résulte du fait que les joueurs sont en situation d'interaction.
Ça veut dire que chaque joueur, il joue en fonction de l'idée qui se fait du jeu des autres, comme au tarot ou à la belote.
Et d'incertitude.
Ça veut dire que tu peux pas être sûr de ce que les autres y vont jouer, comme au tarot ou à la belote.
Or, de cette situation d'interaction et d'incertitude résultera nécessairement une issue infra-optimale.
Ça veut dire en dessous de la meilleure.
L'archétype de ce type de jeu, c'est le dilemme du prisonnier.
Ah oui, ça raconte l'histoire de deux types panettes.
Interpellés par la police, laquelle sait qu'ils ont commis ensemble un délit.
Alors, le délit dans l'histoire, on sait pas ce que c'est. Mais c'est forcément quelque chose de grave, vu l'issue. Ce qu'on sait par contre en revanche, c'est que la police, elle a pas de preuves.
Aussi, lui faut-il obtenir des aveux.
En bon uniforme.
En bonne et due forme.
Oui, bon, c'est pareil. Alors, comme la police, elle a plus le droit de torturer les gens, elle leur fait le coup de la pression...
psychologique.
Oui, c'est ça. D'abord, la police, elle fait mijoter les deux lascars le temps qu'il faut.
En les isolant l'un de l'autre.
Ah oui, c'est important, ça. Faut pas qu'ils causent entre eux.
De sorte à mettre au point un scénario crédible. Puis, quand ils sont à point, on les soumet, séparément, bien sûr, à la même alternative.
Tu dénonces l'autre ou tu dis rien?
Parce que c'est pas la peine d'espérer qu'il y en ait un des deux qui se dénonce.
Oh bah c'est des sales types, hein, des homos qui conumicus.
Chacun de ces deux lascars est avisé des conséquences de son choix.
Tu dénonces pas l'autre, t'es libre, vu qu'on n'a pas de preuves.
Mais si l'autre te dénonce, te v'là bon pour 10 ans de prison.
Tu dénonces l'autre, on te libère.
Sauf, bien sûr, si l'autre te dénonce aussi.
Et dans ce cas-là, on coupe la poire en deux, 50 zonzons pour ta pomme, pareil pour l'autre.
On l'aura compris. Des deux termes de cette alternative, celui qui s'avère le moins coûteux est de dénoncer l'autre. Si bien que ces deux malfaisants décident de se dénoncer mutuellement.
C'est couillon. Enfin, je veux dire, c'est infra-optimal.
Certes. En se taisant l'un et l'autre, ils auraient été relâchés.
Vu que la police, elle a pas de preuves.
Mais encore eût-il fallu que ces deux lascars...
Ces deux quiconumicus...
puissent communiquer afin de coopérer à la mise en œuvre d'une solution optimale. À ce propos... on notera que les néoclassiques ne recourent qu'à un seul type de jeu, le jeu non coopératif.
Ah, tu m'étonnes, patronne. La coopération, la solidarité, tout ça, c'est pas leur apéro.
Leur tasse de thé.
Ça dépend de ton habitus.
Enfin, on notera que la résolution d'Unabridge n'a rien changé au discours néoclassique.
C'est toujours la même rengaine. Ah, ma brave dame, si seulement la concurrence, elle était pure et parfaite, on n'en serait pas là.
La main visible de l'État ne serait pas nécessaire pour corriger les déséquilibres macroéconomiques, tels que le chômage, l'inflation, la récession...
les cafetières entartrées, les éviers qui se bougent, les armoires qui se vident pas.
Sauf que la main invisible n'existe pas.
Et c'est pour ça qu'a fait un rein comme la fourmi de 18 mètres.
Je m'excuse, pardon. La môme néant, c'est la môme néant qu'a fait rein.
Oui, bon, c'est pareil, hein. La fourmi de 18 mètres n'existe pas non plus.
La main invisible est une pure fiction, comme l'a brillamment démontré Keynes dans...
La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie.
1936.
Tu sais ça et tu me demandes pourquoi Keynes, il est pas soluble dans Valras?
Oui, bon, c'est pas parce que je connais le nom d'un bouquin que je l'ai lu, hein. Mais toi aussi, tu cites des bouquins que t'as pas lus.
Pas des! Un bouquin! Un seul! Das Kapital! Dont d'ailleurs je t'ai dit...
Ça va, laisse tomber, hein. Et on dira ce qu'on veut. Homo quiconumicus, là, c'est vraiment un sale type. Il pense qu'à lui. Et du coup, il fait rien que des effets vicelards.
Heureusement, dans le genre homo, il y a pas que lui. Il y a aussi Homo sociologicus.
Qui c'est celui-là?
Un homo qui n'a pas pour priorité de maximiser sa propre satisfaction. Ce qui lui importe avant tout, c'est la qualité de ses relations avec autrui. En la matière, une des références majeures, c'est bien sûr L'essai sur le don de Marcel Mauss. Marcel Mauss, 1873-1950. Selon Mauss, le don repose sur une triple obligation sociale, celle de donner, de recevoir et de rendre.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Par exemple, moi à Noël, je me sens obligée de faire des cadeaux à ma famille. Ah bah sinon ça fera des histoires. Oh, surtout avec l'autre, là, la femme au frère... Et mes cadeaux ne peuvent pas les refuser. Même l'autre, là. Bah du coup, ils se sentent obligés de me les rendre. Enfin, je veux dire, m'en faire aussi, y compris l'autre, là. Bref, les cadeaux, ça fait qu'on se fâche pas. Et même des fois, ça fait qu'on est plus fâché. Sauf avec l'autre, là. Ça, elle, le coup des cadeaux, ça marche pas, y a rien à faire.
Bien. Alors, cette illustration de la fonction sociale du don n'est pas dépourvue d'intérêt. Cependant, il importe de rappeler que Mauss ne traite pas des cadeaux de Noël, mais des dons tels qu'ils se pratiquent dans des sociétés primitives.
Des sociétés premières.
On doit dire première et non plus primitive, afin de ne pas choquer ceux qui ignorent que le sens premier de primitif, c'est premier.
Ah ben, ceux-là, ils croient que primitif, ça veut dire pas fini. Du coup, ils choquent, c'est forcé.
Bref, Mauss a mis en évidence que le don permet de nouer, de renouer, d'entretenir le lien social et, partant, de pacifier les relations humaines.
Comme quoi, les primitifs, c'est pas des abrutis.
Oh non! Ils ont compris que si Wispakem, le don s'avère en tout point préférable au parabellum.
Et c'est pas non plus des ignorants. Et la preuve, eux, ils causent latin. Et puis je suis sûre qu'ils font comme toi. Si le cadeau leur plaît pas, ils le collent dans l'armoire, et voilà, très simple, pas très compliqué.
Sauf que des fois, le cadeau, on est obligé de le sortir. Tu te souviens, le plat crustacé? Il a bien fallu que je le sorte quand les gens qui me l'avaient offert sont venus dîner.
Ah mais c'est de ta faute aussi. Ils sont de moulin, ces gens-là. Fallait pas leur demander ce qu'ils avaient envie de manger.
T'as raison, c'était couru. Des fruits de mer, qui m'ont dit. Du coup, j'ai sorti leurs plats crustacés avec en relief des crabes et des crevettes.
Il y a aussi des moules.
Tableau 6. L'obtention du bac n'est pas cancérigène. Garance s'active encore et toujours dans son coin et Isa se tient debout face à l'armoire.
Bon, c'est pas tout ça. Faut que je te vide. Ça fera de la place. Oh, de la place, pourquoi? Des cadeaux qui m'ont pas plu? En plus des cadeaux, je reçois plus. Ou alors c'est des chèques cadeaux.
C'est pratique le chèque cadeau.
Comme tu dis, c'est pratique. Ça évite de se creuser la tête pour trouver ce qui ferait plaisir.
D'un autre côté, ça évite le plat à crustacés ou l'éventail en plastique.
Y a les cadeaux qui m'ont pas plu, puis les choses qui me servent à rien. Et des choses comme ça, j'en achète plus, depuis que je suis encore moins bien payée qu'avant pour rien faire. Maintenant, quand j'ai pas le moral, j'appelle les copains.
T'as raison de faire ça.
Sauf que des fois, je tombe mal.
Aïe.
Parce que le copain, le moral, ils l'ont pas non plus. Remarque, quand c'est parce qu'ils ont un cancer du sang ou de la prostate, je me dis que ça pourrait être pire.
Ils pourraient avoir les deux.
Réfléchis deux secondes. Un copain ou une copine, il peut pas avoir les deux.
D'accord, mais si le copain, il a une copine, ça se peut qu'à deux, ils aient les deux.
En tout cas, quand j'apprends ça, je me dis que ça pourrait être pire.
Pour eux?
Pour moi.
Ah.
Du coup, je me sens mieux. Quand Ego appelle ses copains, il leur dit « Comment ça va ?»
On peut dire aussi « Tu vas bien ?» ou alors « Ça roule ?»
On peut. Quelle que soit sa formulation, cette question ne préjuge en rien de l'intérêt que porte Ego à la santé de ses copains.
C'est une action routinière, comme il dit...
Max Weber.
C'est ça, Max Weber. Max Weber, 1834-1880.
Bien. À cette question, autrui répond le plus souvent « Et toi ?»
ou alors « Et vous ?» quand la question c'était « Comment allez-vous ? »
Cette réponse est tout aussi routinière que la question posée.
C'est limite une action réflexe, comme il dit Weber.
Cependant, cette réponse ouvre à Ego une porte que par éducation il répugnait à enfoncer.
Preuve que cet Ego-là, il n'est pas du genre à demander si ça roule.
En effet, cette réponse « Et toi ?» autorise Ego à relater par le menu ses propres affres.
Mais si le copain y répond « Pas tant que ça », eh ben la porte, elle s'ouvre pas.
Si, elle s'ouvre.
Ah ?
Mais dans le sens opposé à celui qu'Ego escomptait. Le voilà contraint de s'informer sur le sens et la portée de ce « pas tant que ça ».
En même temps, Ego, il se dit que ça pourrait être pire pour lui.
Sauf, bien sûr, si les mots qui l'affligent s'avèrent tout aussi graves que ceux dont souffrent ses copains.
Ils ont tous un cancer du sein ou de la prostate.
Ou bien pris l'échec au bac d'un de leurs enfants ou petits-enfants.
Ah oui, ça aussi c'est grave.
Très grave, car de moins en moins fréquent. À ce propos, rappelons que le taux d'échec au bac a diminué tandis que la fréquence des cancers s'est accrue. D'où, bien sûr, la question d'une éventuelle corrélation entre ces deux évolutions. Comme chacun qu'une sait, la réponse à cette question suppose de disposer de chiffres fiables. En l'occurrence, ils le sont. À partir desquels on calculera le coefficient de corrélation. Bien. Cependant, un coefficient élevé ne permettrait pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'augmentation de la fréquence des cancers et celle de la réussite au bac. Une corrélation peut n'être qu'une simple coïncidence.
Par contre, en revanche, entre le fait que les vieillisses bougent de plus en plus souvent et le fait que la crépine elle est de plus en plus naze, il y a corrélation causale.
Je me souviens, quand j'étais étudiante, le prof de stats nous demande de calculer le coefficient de corrélation entre deux séries de chiffres. Sans nous dire de quoi il s'agit. On calcule le coef, il est élevé. Et là, le prof nous informe que les chiffres correspondent à l'évolution du nombre de phoques ou de pingouins. Je sais plus trop. Et celle du nombre de divorces aux États-Unis, sur la même période.
Oui, pour tes souvenirs d'enfance.
Hein, c'est pas des souvenirs d'enfance. J'avais passé l'âge des poux et de la varicelle. Deux, t'as raison. Mes souvenirs, tout le monde s'en fout.
Mais non.
Mais si. Bref, à supposer que l'augmentation de la fréquence des cancers et celle de la réussite au bac soient statistiquement corrélées, il serait pour le moins hasardeux d'en tirer la conclusion que l'obtention du bac est cancérigène et ou que celle du cancer favorise la réussite au bac. Bien, ces précisions ayant été données, revenons au moment où Ego...
T'as toujours pas le moral vu qu'il a un cancer de la prostate.
Appelle un copain qui souffre lui aussi d'un cancer de la prostate.
Ou du sein, si le copain c'est une copine.
Dans un tel cas... On voit mal comment le malheur d'autrui pourrait faire le bonheur d'Ego.
Ah si, moi je vois. Ego et son copain, ils vont forcément causer de leur cancer.
T'as raison. De leur expérience respective, des services d'oncologie.
De ce que ça fait, la chimio et le reste.
De l'état déplorable de l'hôpital public, de l'incurie des autorités.
Mais aussi de l'infirmière.
C'est un ange et ses yeux sont verts. Ti-la-la-la-la, ti-la-la-la, da-di-di-da-da-da,
da-di-di-da-da-da. C'est joli, c'est de qui?
Sushi Voulzon.
Bon, Dunaire, ton armoire, elle est toujours pleine.
Eh oui, pleine de choses. Quand je les ai mises là, je me suis pas méfiée. J'aurais dû. Avec le temps, les choses qu'on garde, ça devient des crève-cœur.
Faut mettre un S à cœur, mais pas à crève.
Je pouvais pas prévoir. Elles avaient un petit air innocent, comme Rose, sous sa toque de martre.
Ça y est, nouvelle partie pour le quart d'heure nostalgie.
Alors, un, ça a pas duré un quart d'heure. Deux, faudrait voir à pas confondre nostalgie et mélancolie. Bon, on était où?
À Rose, qui sentait bon la fleur nouvelle.
Ah oui, sauf que le temps passe, et avec le temps...
Tout ça en va.
Et non. Hélas, tout s'en va pas. Il y a des parties qui restent. Puis il y en a qui reviennent.
Dis, Isa.
Oui.
Ce tout-là, il est comme les parties ou c'est un tout du genre qu'on dorsait?
Je sais pas. Ce que je sais, c'est que mon armoire, elle est pleine de gens que j'ai oubliés. Des gens qui m'aimaient bien et qui m'aiment plus.
Mais non.
Mais si.
Tu sais, les choses qu'on met pas dans l'armoire, des fois, elles vieillissent pas bien non plus. Hein.
Ah, je sais. Au début, on aime bien les avoir sous le nez parce qu'on aime bien l'histoire qu'elle raconte. Mais avec le temps, l'histoire, elle change. On n'a plus envie de l'entendre. Alors, pour les faire taire, les choses, on ouvre l'armoire. Sauf qu'on peut pas les mettre dedans. Il n'y a plus de place. Mon Dieu. T'as entendu?
Quoi?
Mon Dieu. J'ai dit mon Dieu.
Et alors?
Bah, quand j'étais prof, je le disais pas. Rapport au sacro-saint principe de laïcité.
Ah oui, c'est vrai. En France, l'école publique, elle est laïque.
Et gratuite, par-dessus le marché. L'expression « par-dessus le marché » est ici, on ne peut plus appropriée. L'école en France échappant pour l'essentiel aux lois de l'économie marchande.
Ça veut dire qu'elle est gratuite.
Qui ne veut pas dire qu'elle coûte rien, bien au contraire. Mais ça, les usagers de l'école...
Peut leur chaud.
Exact. Et pourquoi? Pourquoi ça leur chaud pas? Parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est tous des homines économiques qui...
Mais pas tous, exagère pas.
C'est vrai. Il y a encore des élèves qui demandent que ça. Comprendre, apprendre. Et des parents qui ne prennent pas pour des babysitters. Du coup, il y a encore des profs heureux et fiers de faire le plus beau métier du monde. Transmettre aux autres ce qu'ils savent, ce qu'ils ont compris... Et leur donner ainsi les moyens de penser par eux-mêmes, de devenir pleinement ce qu'ils sont.
Attention, il y a ton moi qui s'émeut. Ça devient un kitsch.
Et toi, ton moi, il s'émeut jamais, peut-être?
Si, des fois.
Ah.
Sauf que le mien, il s'émeut moins souvent que le tien, et en plus, ça dure moins longtemps.
Bon, j'ai mon moi, t'as ton toi, à chacune son soi.
Voilà, très simple, pas très compliqué.
Tableau 7. Demain, dès l'aube. Garance s'active dans son coin et Isa se tient debout, face à l'armoire.
Bon, j'en étais où? Ah oui, enseigner, c'est le plus beau métier du monde. Le poète a dit, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et le poète, on le sait, a toujours raison.
Aragon.
Victor Hugo.
Le père à Didine?
Le père de Didine a raison.
Les gens qui n'ont pas d'instruction, ils avalent n'importe quoi. Du genre, De Gaulle, il était communiste, le cancer, c'est la faute au bac.
Keynes, c'est celui de Don Valras. Alors que Keynes s'oppose radicalement à la manière dont les néoclassiques conçoivent le fonctionnement d'une économie capitaliste de marché.
Ça chaud à personne de savoir ça.
Faux! Il y en a à qui ça chaud. À commencer par toi. Ose dire que tu m'as jamais dit que tu voulais que je te dise pourquoi Keynes il est pas soluble dans Valras. Allez, ose. Vous, c'est clair que vous en fichez complètement de savoir pourquoi Keynes il est pas soluble dans Valras. Pas la peine de faire semblant.
Tu trouves qu'ils font semblant?
Oui.
Ah bon.
Allez, dis-le que tu l'as dit. Sinon, à qui tu veux que je dise, moi? Pourquoi Keynes, il est pas soluble dans Falras?
Elle a plus que moi, comme public obligatoire et quasiment gratuit.
T'entends quoi exactement par quasiment gratuit?
Pas grand-chose, hein. C'est le cas de le dire.
Bon. En attendant, tu sais pas ce que tu rates. Vous non plus. Je faisais un carton là-dessus. Et pas que là-dessus. Hein. Sur la question de la dette publique, je craignais personne. Ça vous tente pas, la question de la dette publique?
Je crois pas, non. Écoute, ils font même pas semblant.
Sinon, je peux vous expliquer pourquoi les marchés financiers sont devenus de plus en plus volatiles. Ou alors pourquoi, selon Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. Pourquoi... Ah oui, pourquoi Keynes, il dit que les PEP de Ricardo, c'est de la petite bière, comparé à ceux de Malthus.
Les quoi?
Les PEP, P-E-P, les principes d'économie politique, ça veut dire la théorie économique.
Il a dit ça, Keynes? Les PEP à Ricardo, c'est de la petite bière?
Oui. Pas comme ça, bien sûr, hein. Mais c'est quand même ce qu'il a dit. Et toi, je suis sûre que t'as envie de savoir comment les banques centrales régulent la création monétaire. Non? T'as pas envie? Moi non plus, c'est sûr. Allez, courage et persévérance. Je vais bien finir par trouver une question susceptible.
Laisse tomber, ils sont pas là pour ça.
M'en fous! Puisqu'ils sont là, autant en profiter. Ça y est, j'ai trouvé.
Comme disait Pérec.
Archimède, c'est Archimède qui a dit j'ai trouvé. Pérec, il a dit je me souviens.
Oui, bon, c'est pareil. Hein.
Pérec, Georges de son petit nom. Il a reçu le prix Renaudot pour son premier roman, Les Choses. Tiens, vu ton boulot, c'est pile poil un bouquin pour toi.
Tu parles à une armoire.
Et alors? Ça veut pas dire qu'elle sait pas lire.
Et toc.
Quoi?
Ça veut pas dire qu'elle sait pas lire et toc, un octosyllabe avec en plus une rime dedans.
Ah oui, ce que c'est que le talent. T'entends ça?
Quoi?
L'armoire a dit que mes vers sont du genre mirliton.
Bah, faut reconnaître que...
À ta place, ma vieille, je ferai pas la difficile. Parce que dans le genre vers, y a pire. Du genre qui s'attaque aux pauvres armoires sans défense.
Oh, t'inquiète l'armoire, j'ai fait ce qu'il fallait pour pas que t'aies des bébêtes qui t'embêtent.
Ah bon?
Bah oui. Je m'occupe de tout, tu sais bien. Bon, allez, on se rentre, on finira demain.
Bah, sauf que moi, j'ai même pas commencé.
Tu commenceras demain.
Voilà, demain, je vide l'armoire. Au fait, à propos de Pérec, t'aurais pas des fois la vie mode d'emploi?
Si, je l'ai. Pourquoi?
Parce que j'arrive pas à remettre la main dessus.
Attends là, celui que j'ai, il est pas à toi.
T'es sûr?
Ah, je l'ai acheté. Tu veux le ticket de caisse ou quoi?
Oui, bon, te fâche pas. Donc, si c'est pas toi, c'est l'autre. Alors, le Pérec, tu l'as ou tu l'as pas? Elle l'a. Je vais le récupérer illico presto. Ça sera toujours ça de fait.
À ta place, j'attendrai demain.
Et pourquoi? Pourquoi j'attendrai demain?
Bah parce que t'as dit, demain, je vide l'armoire.
Sauf que l'autre, elle sait bien que quand je dis ça, elle peut dormir tranquille, sur ses deux portes. Donc, le Pérec, je m'en vais le récupérer.
Illico presto.
T'entends?
Moi, tu sais, à part les éviers, j'entends pas grand-chose.
Elle a dit, je te rends le Pérec que si tu me prêtes la distinction.
Non.
Si.
Eh ben, elle manque pas de plomb, la comptoise.
D'aplomb. Elle manque pas d'aplomb.
Oui, bon, c'est pareil, hein. Elle sait bien que la distinction, tu l'as jamais prêtée.
Jamais. À personne.
T'as pas autre chose à lui prêter?
Si, bien sûr. Je peux lui prêter du Durkheim, du Weber, du Halbwachs, du Lévi-Strauss, du Aron, du Sauvy, du Malinvaux, du Barre, du Hénin, du Aglietta, du Piketty...
Et du Bourdieu, tu peux?
Ah, pas de problème, je les ai tous. Je lui prête ce qu'elle veut. Sauf, bien sûr, la distinction.
Elle dit que ça coince. T'as pas mieux?
Bon, à la limite, je peux lui prêter du Keynes.
Sauf la théorie générale.
Si, pourquoi pas?
Mais parce que c'est à moi qu'il faut que tu la prêtes. Sinon, je saurais jamais pourquoi Ken, il est pas solvable.
Soluble!
Oui, bon, c'est pareil.
Lévier.
Quoi, Lévier?
Tu vas revenir tous les deux jours pour le déboucher.
Ouais. En tout cas, tant que t'auras pas changé la crépine.
Donc, j'aurai tout le temps de t'expliquer pourquoi Ken, il est pas soluble dans Valras.
À condition que tu changes pas la crépine.
Aucun risque. Tu peux compter sur moi.
Promis?
Promis. Bon. Assez rigolé, l'armoire. Ou tu me rends le Pérec, ou j'appelle Emmaüs. C'est ça que tu veux?
Je m'excuse, pardon, mais Emmaüs, il prend pas les armoires pleines. Hein.
Et alors, je la vide? Très simple, pas très compliqué.
Sauf que du coup, tu récupères le Pérec.
Donc ma menace ne tient pas debout.
Bah non.
Donc la comptoise a gagné.
Bah oui.
Bon, je te prête la théorie générale. Désolé, à vous, je peux pas, hein, j'en ai qu'une. Puis de toute façon, ça vous intéresse pas.
Mais t'en sais rien?
Alors, madame est contente? Ça lui suffit pas?
Non.
Si, elle veut aussi la distinction.
Bon, eh ben à mon avis, t'as pas le choix.
Faut que je dise oui?
Ben oui.
D'accord. Je te prête les deux. Attention, c'est des éditions originales.
Tu parles si elle s'en fout?
T'as raison. C'est connu. Les armoires, elles font pas la différence entre un Pléiade et un livre de poche. Du moment qu'elles ont de la place, elles prennent ce qui vient. N'empêche, tâche de faire attention, l'armoire. En plus, Kenz et Bourdieu, c'est les deux hommes de ma vie.
Oh?
De ma vie de prof, évidemment.
Ah?
De toute façon, Kenz, quand je l'ai connu, il était mort, et depuis longtemps.
Dans ces cas-là, forcément, c'est moins simple. Hein. Et Bourdieu?
Bourdieu, lui, par contre, il était bien vivant. Je l'ai vu en vrai, tu sais, deux fois.
Et alors?
Et alors?
Alors quoi? Raconte!
Alors, je me suis dit...
Bah quoi? Tu t'es dit quoi?
Que l'auteur de la distinction était plutôt joli garçon.
Ah ah!
Bon, tu me diras que mes goûts sont jamais que le dégoût des goûts des autres. N'empêche...
On se rentre?
Oui, on se rentre. T'entends? Ils ont pas l'air de se rentrer, eux.
Ah, c'est parce qu'ils ont pas compris que c'était fini?
Mais c'est pas fini! J'ai encore un tas de choses à vous expliquer.
Tu leur expliqueras demain.
Ils seront là, tu crois?
T'inquiète, ils seront là.
Et toi?
Moi aussi, demain, dès l'aube.
À l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Hop. Toi, tu restes là. T'as ton armoire à vider.
Ah oui. Demain, je vide l'armoire. Et toi?
Je viendrai pour déboucher l'évier.
Ah oui.
Et puis, je sais que tu m'attends.
Allez, c'est fini. On se rentre.
Et tout au fond de notre cœur, c'est moi.